Alors, hier, le Premier ministre, j'ai écouté sa conférence de presse devant sa résidence. Il était, disons-le franchement,
Démoli.
Il était démoli. Il a dit j'en ai marre en parlant de la pandémie. Mais il y a une chose que j'ai entendue, confirme-moi ça, c'est que le plan d'aide aux citoyens du Canada va se poursuivre, va se prolonger jusqu'en juin prochain.
Oui, tant. Puis il a mentionné également que si on devait aller au-delà, on va poursuivre. Contrairement à ce qui est en train de se passer aux États-Unis, on a l'impression qu'aux États-Unis, on est en train de pratiquer la politique de la terre brûlée. Là. Je t'expliquerai tantôt. Chez nous, c'est tout le contraire. On a ouvert les vannes au mois d'avril et on continue de les laisser ouvertes tant et aussi longtemps que la solution, c'est-à-dire les fameux vaccins, n'aura pas été distribué à la grandeur du pays. Alors qu'aux États-Unis, c'est tout le contraire. Hier, le secrétaire au Trésor a demandé à Jerome Powell, qui est le président de la Fed, de couper les vannes aux entreprises, aux municipalités et aux États à compter du 31 décembre et de rembourser les sommes qu'ils avaient obtenues du Conseil du Trésor pour justement aider leurs concitoyens à passer au travers de la pandémie. Alors, au 31 décembre, il n'y aura plus d'argent. Et il n'y a pas encore de plan d'aide. Le deuxième plan d'aide n'est pas encore adopté.
Imagine.
Et il n'y a pas de transition. Là, on s'aligne aux États-Unis. Là, c'est pas des blagues là, ce que je vais te compter là. On est en train de s'aligner pour une catastrophe économique au premier trimestre de 2021, si jamais il n'y a rien qui n'est fait d'ici le 31 décembre. Là, il va falloir qu'il se passe quelque chose, parce que je te jure que ça ira pas bien. Là.
Mais
d'abord, les gens vont remettre les clés de leur maison. Ça, c'est la première affaire.
Comme on l'a vu en 2008-2009.
C'est là que j'allais, effectivement.
Lors de la crise des papiers commerciaux.
C'est tout à fait ça. Et là, ça sera pas à cause des papiers commerciaux ou des banques, ça va être carrément à cause du gouvernement et de la politique qu'on est en train de mettre en place, parce que là, on veut plus aider les entreprises. Je sais pas sous quelle mentalité, là. C'est comme si on disait au gouvernement, en tout cas, du moins ce qui en reste de ce gouvernement-là, il n'est pas question d'aider de quelque façon que ce soit les nouveaux arrivants, et nous allons leur couper l'herbe sur le pied. Alors que ici au Canada, c'est tout le contraire. Tu sais, regarde, c'est sûr qu'on peut faire de la petite politique à un moment donné, là, tu sais, changer des virgules ou changer des sommes vers mais tu sais, ici au Canada, tous les partis politiques, tous confondus, là, ont été unanimes pour aider les citoyens canadiens. Et même ici au Québec, on a pu voir une certaine unanimité de la part des différents partis politiques pour aider les entreprises, pour aider les concitoyens, pour être capable de passer à travers cette pandémie-là. C'est le seul moyen de sauver l'économie. Il n'y a pas d'autre façon de faire, là.
Mais écoute, tu parles de la situation américaine. J'ai envoyé cette semaine un courriel à toute notre équipe. J'aurais dû t'inclure d'ailleurs dans le courriel. Une illustration des conséquences économiques de la pandémie aux États-Unis. C'est une photo qui est un plan aérien là, où on voit sur une autoroute à trois voies de chaque côté ou quatre voies de chaque côté des kilomètres de voitures qui font la file pour se trouver une place dans une banque alimentaire.
Alimentaire, tout à fait. C'est en Utah. Et je l'ai vu cette photo. Moi, quand j'ai vu la photo, j'avais.
C'est pas une photo truquée là.
Non, du tout.
C'est pas une fake news.
Je pensais, puis ils l'ont montré à CNN hier encore. Puis moi, je pensais, à prime abord, que c'était des gens qui allaient se faire tester, parce qu'on envoie des files, là, des files indiennes pour des gens qui vont se faire tester, puisqu'il y en a de plus en plus, parce qu'il y a des États, là, c'est la catastrophe totale. Ben non, on voyait à la fin de la ligne des camions et des camions. Je sais pas si t'as vu les 53 pieds qui étaient alignés là, pour plein de denrées alimentaires et des produits de première nécessité. Ouais. Pour remettre à ces gens-là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, le règlement sur l'assurance emploi est pas fait encore. Et il y en a plusieurs qui vont se retrouver pas de sous à compter du 1er janvier. Ça veut dire là, des saisies de maison, ça veut dire des faillites, ça veut dire des faillites d'entreprise, ça veut dire... J'ose même pas imaginer. J'espère qu'on va trouver une solution.
Rappelons que la situation est épouvantable sur le plan politique en raison de l'entêtement de l'actuel président. Il faut rappeler une chose. Tu as parlé du premier trimestre de l'année 2021. Donald Trump, à titre de président des États-Unis, est en poste jusqu'à midi le 20 janvier prochain. C'est loin, ça, encore. Ça veut dire qu'il peut y avoir toutes sortes d'autres problèmes de sécurité nationale. On en parle de plus en plus.
Ah, ben oui.
Avec une transition qui risque d'être catastrophique. Et tu as vu la réaction des marchés cette semaine.
Ah non, ça peut, c'est,
qui a dit, on va se diriger vers un crack boursier absolument terrible, parce que les bourses à Wall Street, la bourse est... aime une certaine stabilité. Et là, on est dans l'inquiétude totale. Donc, alors qu'on a flirté avec les 30 000 points au Dow Jones, François...
Oui, cette semaine.
Oui, mais cette semaine, je me souviens plus de la firme qui a dit...
J.P. Morgan.
C'est J.P. Morgan qui a dit...
Oui.
Attendez-vous un crack épouvantable?
Ça va être épouvantable. Non seulement une croissance qui risque d'être extrêmement difficile, même très négative, alors que on s'alignait vers une augmentation pour 2021. Là. Eux, là, si ça continue, là, ça va être un désastre total. Alors, je ne sais pas comment Joe Biden va arriver le 20 à midi, après avoir prêté serment à la nation, comment il va pouvoir... Ben, tu sais, garde, c'est sûr qu'il va signer des décrets là, pour dire, garde, là, vas-y, puis dépense ton argent. Mais le temps que cet argent-là soit débloqué, que ça soit envoyé à la Réserve fédérale, comme ça se fait pour les entreprises, et que ça soit débloqué par la suite, ça va prendre quelques semaines, ça. Et t'as le programme de 2,2 milliards que les démocrates essaient de faire voter par le Congrès et par surtout par le Sénat, qui refuse toujours de signer, pour venir en aide à monsieur et madame tout le monde, qui n'est pas encore adopté. Et là, il va falloir qu'il se passe quelque chose avant Noël, parce que s'il se passe à rien avant Noël, le 1er janvier, je te le dis, là, J.P. Morgan l'a répété, la Deutsche Bank le dit également, ils s'en vont dans le mur, c'est ce qui va arriver.
Et évidemment, on peut parler maintenant de sabotage de l'actuelle administration, parce que...
Ah, mais c'est clair.
Ben oui. Donc, un sabotage va venir s'ajouter à une crise sanitaire qui est hors de contrôle. Alors, c'est un peu comme la tempête parfaite, là, aux États-Unis.
Ben, tu sais, certains républicains, hier, quand je t'ai dit de la politique de la terre brûlée, là, c'est des républicains qui ont mentionné ça hier. On s'en va tellement dans le mur qu'on a l'impression que il va tout saboter, il va tout brûler sur son passage avant de partir, un peu comme les Allemands faisaient, qui se sauvaient là, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour pas que personne récupère rien. C'est ça la politique de la terre brûlée. Et ça, c'est extrêmement néfaste pour une nation, néfaste pour sa population, et dans un temps de pandémie, ben, c'est encore pire.
Alors, je voudrais t'amener sur... un domaine, et on s'est pas consulté, mais je sais que tu vas réagir parce que tu aimes l'aviation commerciale comme moi.
Veux-tu me parler du 737 MAX?
Oui, le 737 MAX revient.
Oui.
Et je serai le premier à voler dedans. Je vais t'expliquer pourquoi. Ouh. Il doit être plus sûr que jamais.
Ah ben ça, c'est clair. Mais là, tu sais, regarde, il y a une confiance qui est disparue par rapport à la FAA aux États-Unis, et c'est la raison pour laquelle tous les autres pays, à l'exception des Américains, ont décidé d'y aller de leur propre certification. Tu le sais, c'est un problème de logiciel. La FAA a laissé passer des choses qu'il n'aurait pas dû faire, et Boeing en a profité et en a bénéficié justement pour cette concurrence contre l'Airbus A320neo pour être capable de continuer la concurrence. Là, on repermet donc au 737 MAX de revoler. Ça se fait maintenant aux États-Unis. Sauf que au Canada, ce sera pas tout de suite. On va procéder à de nouveaux tests. Et également, en Europe, ça va être la même chose pour recertifier cet appareil-là ailleurs. Alors là, il va pouvoir voler à l'intérieur des États-Unis, mais il pourra pas venir au Canada. Il pourra pas aller en Europe non plus.
Ouais. Je voulais te parler également. Oui. C'est pas un cri désespéré. C'est comme un appel avant la noyade. C'est dans le Journal de Montréal de ce matin, d'ailleurs, cet article. Les compagnies aériennes, François, du monde, ont besoin rapidement...
80 milliards.
De 80 milliards de dollars. Attention, pas pour prendre de l'expansion, pas pour pouvoir...
Juste pour survivre 6 mois.
Pour survivre 6 mois. Écoutez ça, là. C'est une autre catastrophe à venir en 2021. Les compagnies aériennes du monde entier ont besoin de 80 milliards pour survivre.
Oui, tout à fait. Et ils ont déjà reçu, là, fait exception du Canada, là. OK? Je te parlerai du Canada après, là. À travers le monde, ils ont reçu jusqu'à maintenant 160 milliards de dollars. Là-dessus, il y a en Europe, entre autres, KLM, Air France, t'as Virgin Atlantic également qui en a reçu, British Airways, t'as les compagnies australiennes qui en ont reçu Au Canada, zéro jusqu'à maintenant.
Ça, c'est vrai. Ça tarde
zéro,
à venir. Hein?
Oui, mais là, il y a des conditions. Là. On veut mettre des conditions. C'est un peu comme en Europe. Là, on va vous donner de l'argent, mais j'ai pas aimé ce que Vinescu a dit, le président d'Air Canada, cette semaine. Oh, oui, payez-nous, puis on va rembourser nos clients. C'est pas...
En parlant de ceux qui avaient fait des réservations, déjà.
Ben oui, ça a pas de bon sens, là. C'est quasi du chantage, ben cette histoire-là. Ben ça paraît très mal. Sauf que, oui, effectivement, on aura besoin d'aide chez nous aussi. Il va falloir que le gouvernement canadien... C'est le seul pays où les compagnies aériennes... Là, tu penses à des compagnies majeures, malgré tout, là. Tu sais, nonobstant Air Canada, t'as WestJet, t'as Sunwing... La Transat, et dans l'Ouest également, où on a de très grosses compagnies aériennes, même si ce sont des compagnies régionales, il n'y en demeure pas moins que nos compagnies aériennes, c'est pas des bénéries non plus. Là.
Non,
ils ont besoin de sous. Et il y a des milliers de personnes qui travaillent pour eux.
T'as raison. Et il y a, par exemple, dans ce grand territoire qu'est le Québec, des compagnies absolument admirables, comme Air Québec,
oui.
Air Inuit, qui desservent chaque jour les communautés les plus éloignées. Nous avons besoin, François, comme lien, parce qu'il n'y a pas de train, il n'y a pas de route, on ne peut pas aller à Iwo-Jivik ou encore à Kujawiak, autrement qu'en avion. On a besoin de ces compagnies-là.
Oui. Air Québec, une compagnie de Val-d'Or, d'ailleurs, là, puis c'est une très, très belle pour l'avoir déjà pris. Là, c'est particulier. Ils ont des vieux d'H8, là, mais c'est, tu sais, garde, pour être capable de faire le genre de route, là, c'est le genre d'appareil qu'on a de besoin. Tu sais, t'as pas besoin d'un 737 ou des Airbus, là. À un moment donné, tout le monde partait en peur, là. Tu sais, quand l'histoire d'Air Canada, là, ça va nous prendre des Airbus A320, puis non, c'est pas ces avions-là, c'est pas adapté du tout pour le genre de trafic aérien qu'on a de besoin, là, pour le nord du Québec, particulièrement cette île et tout ça. Mais il y en a même pas moins que ces compagnies-là, si elles n'étaient pas là, ben, ça serait extrêmement difficile parce que le Québec, c'est un grand territoire, qu'on le veuille ou pas.
Ben, je comprends.
Et tu sais, les routes, là...
Écoute, le Nunavik, là, c'est un territoire beaucoup plus grand que la France, à plusieurs reprises, d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Alors, en terminant, François, je reviens sur ce chiffre parce que j'en reviens pas. Les compagnies aériennes, pour survivre dans les 6 prochains mois, ont besoin rapidement de 80 milliards de dollars américains.
Et c'est plusieurs centaines de milliers, vous avez bien entendu, plusieurs centaines de milliers d'emplois à travers le monde qui risquent de disparaître. Et tant et aussi longtemps que la pandémie sera pas réglée et que le vaccin sera pas répandu partout, puis on sait pas si on va être obligé d'y aller à chaque année, là, tu sais, est-ce qu'il est bon pour toute la vie ou si on est obligé d'y aller à chaque année comme le vaccin pour la grippe, par exemple. Ben là, on en a jusqu'en 2024. Il faut quand même pas oublier non plus. Je rappelle également que le système d'aviation, c'est pas rien que des compagnies aériennes, c'est également des aéroports.
Et des constructeurs.
Et des constructeurs comme, par exemple, tu sais, Bombardier, entre autres, encore dans une certaine mesure, mais, tu sais, l'ancien C-Series, donc le Airbus A220, qui est fabriqué à Mirabel, ben, c'est à risque, ça aussi, là. Faut y penser. Notre système, on a un excellent système aéronautique chez nous, puis il faut être capable de le conserver, mais la façon de le conserver, c'est qu'il va falloir qu'on les aide. On n'aura pas le choix. Parce que tout le monde aide tout le monde, sauf ici au Canada.
Et Seigneur.
Il me semble que je suis pas encourageant ce matin.
Non, mais t'es pas le seul parce que c'est long, c'est pénible. Et comme l'a dit le premier ministre de notre pays, On en a marre. Merci beaucoup, François Gagnon.
On est bien tanné.
Ramasse-toi pour la prochaine semaine. Bye.
Bye, Paul.